Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Vous allez m'entendre en entretien avec Brahim Alaoui. C'est un entretien qui a été réalisé en live au Makal à Marrakech au mois de décembre avec un public. C'est un épisode très intéressant dans lequel notre invité Brahim Alaoui décrit le processus qui a été celui qu'il a utilisé pour écrire son important livre de mémoire d'une vie entière de voyage à constituer des collections dans le monde arabe. Vous pouvez prolonger l'écoute de cet épisode avec le magazine Diptyque en lisant le numéro 62 dans lequel nous avons également réalisé un entretien avec Brahim avec de nombreuses images. Vous pouvez retrouver également cet entretien en ligne sur www.diptyquemag.com. Bonne écoute de cet épisode. Brahim a d'abord été chercheur au Musée d'art moderne de la ville de Paris et il a ensuite été directeur du Musée de l'Institut du monde arabe au moment de sa création, où entre 87 et 2007, il a organisé de nombreuses expositions qui ont contribué à créer l'identité même du Musée de Lima. Il est l'auteur de nombreux ouvrages pendant ces années-là et c'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Brahim a beaucoup voyagé, beaucoup sillonné le monde arabe. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages catalogues, notamment sur les artistes arabes modernes et contemporains. Je vais passer brièvement sur l'étendue d'un CV absolument faramineux. Et je vais surtout dire qu'il a été membre du comité consultatif de l'UNESCO pour les œuvres d'art jusqu'en 2007 et surtout aussi membre de l'AICA France, l'Association internationale des critiques d'art.
Et marocaine aussi,
puisqu'il y a une section de l'AICA depuis sa création, depuis à peu près 4 ans ou 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, il partage son temps entre du commissariat d'exposition, du conseil, et parfois d'ailleurs aussi de l'écriture, notamment pour notre magazine dans lequel il écrit notamment sur les mêmes sujets que le livre qui nous occupe aujourd'hui. Donc, ce livre... Brahim Alaoui revient dans ce livre sur ses rencontres avec les artistes arabes, que ce soit chez eux ou dans leur exil. Il livre une connaissance de terrain, c'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui, c'est une véritable connaissance de terrain et un regard sensible du travail d'une génération d'artistes modernes, donc il va s'agir des artistes modernes, mais aussi des artistes contemporains. Donc on va commencer peut-être par une question pour mieux comprendre comment... Ce natif de Tanger a pu avoir le parcours que nous allons connaître aujourd'hui. Ibrahim, si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu veux bien revenir sur les années de ton enfance et le Tanger de ton enfance?
J'ai commencé mes études l'année où le Maroc a eu son indépendance, en 1956. Et Tanger gardait encore son caractère international et son ambiance... cosmopolite. Le loisir de fréquenter les différents centres culturels étrangers à Tanger, qui rivalisaient à l'époque en matière d'offres. J'ai eu la chance de fréquenter le centre culturel français, sa bibliothèque conviviale et sa cinémathèque. J'ai aussi fréquenté la bibliothèque espagnole. Et surtout, j'ai fréquenté la bibliothèque américaine qui n'existe plus, qui s'appelait American Library à Tanger, qui était à la fois connue pour son service de prêt de disques de pop et de jazz à l'époque. Et c'est dans cette bibliothèque que j'ai croisé souvent Mohamed Choukri, le futur auteur de Tamu, qui fréquentait cette exposition, qui venait y travailler avant de devenir le bibliothécaire. J'ai aussi découvert dans l'espace de cette bibliothèque, l'espace d'exposition, pour la première fois les œuvres abstraites de Mohamed Mlehi, et qui m'ont impressionné, et d'autres artistes. J'ai aussi rencontré des artistes à l'occasion de leur exposition, comme Yaqoubi, le Hamri, lancé par des écrivains américains, Paul Bowles et Brian Gysi. À cette époque, Tanger, il y avait séjourné à Tanger, un groupe d'écrivains et peintres américains, dont le précurseur est Paul Bowles, qui s'est installé au Maroc à la fin des années 40 et qui fut rejoint par Brian Gysi. Ces deux figures sont devenues le repère de la Beatnik Generation, qui séjournait et qui était de passage à Tanger. Il faut se rappeler qu'il y a eu aussi des musiciens, des jazzmen, mais aussi des peintres comme Francis Bacon, qui était de passage, séjournait souvent à Tanger à cette époque. Les années 60, on a connu un déferlement d'une vague de jeunes hippies qui débarquaient avec leur look et leur musique psychédélique et qui fréquentaient le Petit Soco, la Casbah, les cafés populaires. Et donc, je me suis habitué très jeune à cette cohabitation paisible des différences. Je me suis imprégné de cette ambiance méditerranéenne et multiconfessionnelle qui prenait à Tanger avant de la quitter et d'aller poursuivre mes études en France. Voilà quelques souvenirs qui m'ont accompagné pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont permis justement de m'ouvrir sur d'autres cultures et d'être un peu un voyageur infatigable.
Alors après ce voyage immobile, si j'ose dire, à Tanger, on va faire un saut dans les années 80 et en particulier au moment de la création du musée de Lima. Beaucoup d'entre nous ont certainement vu les expos de Lima, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer au moment de la création de ce musée, quelle était l'ambition de ce musée à un moment donné où on n'était pas forcément dans cette même conscience de ce qu'est le monde arabe comme unité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, quelle était l'ambition dans le cadre de la politique culturelle des années 80 en France, et surtout, je pense au début, donc quand tu es confronté à la création de ce musée, tu es confronté à une problématique qui est celle de comment on documente le monde arabe dans les années 80 depuis Paris.
Oui, effectivement, à l'origine, le projet de l'Institut du monde arabe était un projet plutôt diplomatique auquel François Mitterrand et son ministre de la Culture, Jacques Lang, lui ont confié une dimension très importante, une dimension culturelle. Et dès leur arrivée au pouvoir en 1981, et notamment en l'intégrant au grand projet présidentiel de Mitterrand et en confiant son architecture à Jean Nouvel. Dès lors, l'Institut du monde arabe est devenu un lieu exceptionnel d'échange entre la France et le monde arabe, un lieu de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi un espace de réflexion sur l'altérité culturelle. Quand je suis arrivé au musée de l'Institut du monde arabe en 1984, le musée était constitué de deux départements, un département consacré à l'art islamique, avec une équipe détachée du musée de Louvre, et un département de l'art contemporain. Et il me revenait de le concevoir et de mettre en place les collections et les activités futures de ce musée. Le dilemme, c'est que je me suis retrouvé en face d'un manque de repères, de modèles. Il n'y avait pas à l'époque aucun musée, ni dans le monde arabe, ni en Europe, qui représentait la création moderne et contemporaine dans sa globalité. Il y avait effectivement des musées nationaux qui présentaient, chaque pays présentait ses artistes et les œuvres de ses artistes. Je me suis aussi retrouvé face à la rareté des documents, au manque d'archives, d'ouvrages de synthèse sur l'histoire de l'art du monde arabe. Alors, j'ai entamé un travail sur le terrain et commencé à sillonner les capitales du monde arabe à la rencontre des artistes dans leur lieu de travail. J'ai commencé par le commencement, j'ai commencé par l'Égypte, berceau de la modernité arabe, car l'Égypte, dans la première partie du XXe siècle, a fondé une modernité locale très importante et riche et variée. L'Égypte a connu la Nahda en XIXe siècle. La Nahda, c'est la renaissance culturelle arabe et qui a préparé l'Égypte à accéder à la modernité. C'est au début du XXe siècle, en 1908, que la première école des beaux-arts a été créée en Égypte, la première à l'échelle du monde arabe, qui a formé une première génération des artistes. Entre parenthèses, cette école a été dirigée dès le départ par des enseignants français et italiens. Elle a formé la première génération des artistes arabes qu'on appelle Arwad, les précurseurs. Ces artistes ont poursuivi leurs études à Paris et ils ont rencontré des artistes importants, à l'avant-garde, la modernité européenne. Et à leur retour en Égypte, ils ont fondé ce qu'on appelle une modernité en adéquation avec les aspirations de la Nahda, c'est-à-dire une modernité fruit de ce métissage entre leur acquis en Europe et la réappropriation de leur héritage pharaonique égyptien en général. Et des grands artistes comme, si on peut présenter la première diapo, l'artiste Mahmoud Mokhtar, qui a déjà à l'époque, c'est un grand sculpteur qui a réalisé cette sculpture qui symbolise un petit peu cette modernité qui était à la fois un métissage de l'art sculptural européen et ce sphinx pharaonique et cette femme paysanne non voilée avec portant un regard à l'infini qui symbolise l'éveil de l'Égypte et son enracinement dans l'histoire de l'Égypte. Et c'est une sculpture qui est toujours installée en 1930 au Caire, dans un espace public. Elle a été installée face à la gare centrale, si vous vous rappelez du film de Shaheen, la gare centrale. Alors, elle a été installée à l'époque. Elle a été financée par une collecte publique. C'est-à-dire, à l'époque, le parti de la Renaissance égyptienne avait lancé une quête. Et donc, et la population a participé à la réalisation de cette sculpture dès les années 30. Il y avait aussi un artiste important qui s'appelle Mohamed Nagui, un artiste qui a séjourné à Giverny, qui a rencontré Claude Monet et qui a été influencé par l'impressionnisme. Donc, c'est des artistes qui ont vraiment connu la modernité dans sa profondeur et qui ont su, par la suite, la transformer et reproduire une identité, une modernité locale. Il y a eu d'autres artistes importants de cette période qui sont d'ailleurs, sont de temps en temps, le marché, oui, les révèle à travers des prix très très importants maintenant de ces artistes-là. Donc, dans la fin des années 30, il y a eu un autre mouvement qui a émergé en Égypte, d'un mouvement sous la houlette de George Henin, écrivain et poète francophone qui a fait ses études à Paris dans les années 30 et qui a rencontré André Breton et qui a adhéré au mouvement surréaliste. À son retour en Égypte, il a fédéré autour de lui des jeunes artistes comme Ramsès Younes, plus tard Inji Aflatoun, Karim Tlemcen et d'autres artistes. Et donc, il a fédéré autour de lui ces artistes et ils ont constitué un groupe qui s'appelle Art et Liberté. Art et Liberté, un mouvement très important en Égypte, qui a d'ailleurs milité pour une expression artistique fondée sur la liberté et l'imaginaire en résonance avec le surréalisme international. Des artistes qui ont profondément marqué l'imaginaire des intellectuels, des écrivains, des poètes, des cinéastes, mais aussi des artistes. Un des mouvements très importants dans l'histoire de la modernité arabe-égyptienne. Arrive Jamal Abdel Nasser dans les années 50. Là, il y a une troisième vague de, d'artistes très importants qui, tout en s'appropriant, enfin, en récupérant le surréalisme, ils l'ont recentré sur des problématiques beaucoup plus nationales et sur l'imaginaire populaire égyptien. Et là, il y a eu des artistes très importants comme comme Abdelhadi Ghazal, comme Hamid Nada, comme Kanan, et d'autres encore. Donc, c'est une génération d'artistes influencés par le surréalisme, mais recentrés sur des problématiques de l'imaginaire égyptien, et surtout qui ajusté aux idéaux de panarabisme prônés par Jamal Abdel Nasser à l'époque. Donc vraiment un mouvement qui a accompagné justement cette effervescence qu'a créé Jamal Abdel Nasser en essayant d'être le leader du monde arabe à l'époque. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer encore quelques artistes vivants en 1985, quand je me suis rendu au Caire et j'ai pu acquérir leurs œuvres et
pour la collection
réunir des documents sur l'histoire de cette première moitié du XXe siècle, l'histoire de la modernité artistique en Égypte. Mais la deuxième partie de mes voyages, m'excuse.
Oui, non, mais c'était
je me suis rendu au Caire,
en Irak.
En Irak, à l'époque, c'était en 1986, lors de la rencontre internationale des arts plastiques de Bagdad, où j'étais invité. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer aussi énormément d'artistes. Pour rappel, le Bagdad et l'Irak en général étaient le porte-drapeau du panarabisme dans les années 70-80. Et à cette époque, le panarabisme était, comment dirais-je, une utopie collective qui a mobiliser les intellectuels, les artistes.
Y compris marocains, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Pour comprendre un peu le panarabisme, il faut revenir un peu en arrière et se rappeler que la Nahda égyptienne a éveillé et a suscité surtout une immense prise de conscience identitaire au Machrek, mais aussi au Maghreb. Et donc, il y a eu l'émergence du panarabisme, qui était un mouvement à la fois intellectuelle et politique, et qui prenait la réunification des peuples arabes dans leur lutte contre le colonialisme. Le panarabisme était une pensée séculière, moderniste et porteuse d'espoir de liberté et de justice sociale. Seulement à l'arrivée au pouvoir des régimes politiques syriens en Syrie et en Irak, ont érigé cette pensée, le panarabisme, en une idéologie sectaire et en et l'ont vidé de ses valeurs essentielles. Dans les années 70, par exemple, il y a eu des grands événements, des biennales qui ont été abrités et financés par les régimes irakiens. Et c'est là où il y a eu beaucoup d'artistes du Maghreb et du Mashrek qui se sont retrouvés à Bagdad et ont participé activement à ces grandes manifestations, tout en gardant leur distance avec leur dimension et leur prétention idéologique.
Est-ce que tu ne penses pas, alors là je vais te poser une question, je ne sais pas si le livre y répond vraiment, mais est-ce que tu ne penses pas que d'un point de vue artistique, le panarabisme a eu plus de succès sur le plan artistique que sur le plan politique ?
Justement, il faut faire une distinction entre la pensée panarabe culturelle et la récupération du panarabisme politiquement. Donc, c'est là où il y a une grande distance. Autant le panarabisme politique a échoué, autant la pensée culturelle panarabe continue à irriguer le monde arabe jusqu'à aujourd'hui, à travers le cinéma, la littérature et la création artistique. Donc, souvent, les gens confondent ces deux aspects-là. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évoqué le panarabisme dans ses... À l'origine, était une pensée généreuse, une pensée moderniste, une pensée séculière, une pensée qui promettait la liberté et la justice. Malheureusement, la récupération politique de cette pensée, la vidée de son sens, elle l'a utilisée pour mieux canaliser la création et la culture. D'ailleurs, le régime, quand il a arrêté ces grandes manifestations biennales arabes, et confier leur organisation à des artistes affiliés au parti Baas. Ce qui fait que tout est maîtrisé. Mais Dieu sait, la création et les artistes, on ne peut pas toujours savoir ce qu'ils ont derrière la tête. Et donc, la métaphore chez les artistes arabes est quelque chose de très important. Ce qui leur a permis toujours de passer entre les filets de la censure.
Bon sujet d'exposition.
Oui. Non, mais c'est une des caractéristiques de la création, aussi bien littéraire que artistique, que cinématographique, c'est la métaphore. C'est jamais direct, c'est jamais une critique, mais c'est toujours subtil. Et c'est dans tous les régimes de répression, que ce soit en Amérique latine ou dans les pays de l'Est à l'époque, il y a eu toujours...
Tout à fait.
Et donc, pour comprendre cette création artistique, il faut la restituer dans ce contexte historique. Cela dit, cela n'a pas empêché les artistes marocains d'y participer, mais avec une présence très forte. Il y a eu Farid Belkaïa, Mohamed Mnihi, Qassimi, Mohamed Chiba, Hamidi, Tony Marini, tous ont participé activement, ils ont pu justement élargir leur audience au monde arabe et aussi échanger et dialoguer avec leurs collègues. J'ai eu la chance à cette époque, quand je suis parti en 1986, participer au premier festival international des arts plastiques à Bagdad, de rencontrer encore des artistes les plus importants de l'Irak. Shakir Hassan, Ismail Fattah, Rafi Al-Nasri et d'autres encore. J'ai pu aussi acquérir leurs œuvres et constituer une documentation importante de cette de ce pays.
Alors justement, revenons à, donc on revient de voyage et revenons à Lima, puisque finalement on va voir qu'à travers le programme d'expo que tu as mis en œuvre à partir des années 84-85, tu as restitué évidemment l'essence de ce que tu as pu comprendre de ces voyages, et notamment peut-être une pensée panarabe. On va le voir à travers les expos. Et ce serait peut-être intéressant pour nos auditeurs que tu reviennes sur quelques-unes de ces expos. Vous en avez tous certainement visité. On va peut-être commencer par celle de 84. Mmh. On a quelques images là. Donc c'est une expo sur
avant, 84. On va présenter quelques images de fruits de ces voyages, de ces rencontres et cette collection que j'ai pu constituer, oui. Donc, et qui a été présentée à l'inauguration de l'Institut du monde arabe en 1987.
Alors, est-ce que tu peux commenter les images là?
Voilà. Oui. Donc, mon voyage ne se limitait pas seulement à l'Égypte et à l'Irak. Oui. J'ai continué mes voyages, j'ai visité Damas, mais aussi l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie. Et j'ai fait aussi un tour par acquis de conscience dans les pays du Golfe. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais j'étais quand même au Koweït, au Bahreïn. Il y avait un noyau d'artistes amateurs. L'Arabie Saoudite, Romaine, les Émirats, et le pays qui m'avait impressionné et marqué, c'était le Yémen. J'ai visité Aden et Sanaa. Il y avait, à l'époque, ils se sont réunis, donc il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Et pour anecdote, le Yémen du Sud, il y avait un vol direct, c'était influencé par l'Union soviétique, il y avait un vol direct entre Moscou et Aden, et la vodka coulait à gogo, et le kat, il mâchait du kat. Donc, et il y avait une école des beaux-arts. Il y avait une école des beaux-arts. Fascinant, un pays vraiment. Et donc, j'ai pu rencontrer des jeunes artistes à l'époque, et donc j'ai pu aussi acquérir quelques œuvres de ces artistes. Bref, j'arrive. En 87, il fallait présenter cette collection que j'ai constituée pendant ces trois ans de voyage dans ces pays-là. Et je les ai présentées à l'inauguration de l'Institut du monde arabe. On va voir, je ne sais pas si on peut avoir les images en plein écran, parce que ça serait dommage de les voir un peu.
Alors ici.
Voilà, là c'est une partie, c'est la mise en scène, enfin la présentation dans le nouveau bâtiment de Jean Nouvel de cette collection. Et vous voyez le premier tableau, c'est celui de Kanaan, un des premiers artistes égyptiens abstraits, à côté de Shaker Hassan, un peu plus loin, Sharqawi, et au fond, Qassemi, et une sculpture, la première sculpture à gauche, celle de Mona Saoudi, et plus loin, une sculpture de Shawqi Shoukini. Donc, déjà, un panorama un peu de cette présentation à l'inauguration de l'Institut du monde arabe. On continue. Voilà, c'est encore une partie où on a une sculpture d'Adam Hanin, et une peinture de Salih Baddouahi, à côté celle de Melehi,
Et c'est Najia.
Voilà. Donc ça, c'est encore à l'inauguration du musée de l'Institut du monde arabe. Ça encore, c'est une sculpture de Adam Hanin, une peinture de Abdullah, l'Algérien Ben Antar. Et les sculptures d'Adam Hanin. Donc voilà un peu l'écran, cette architecture novatrice de Jean Nouvel, cette présentation à l'inauguration du musée de l'Institut du monde arabe, fruit de ses nombreux voyages à travers le monde arabe.
Alors peut-être que tu peux nous présenter ensemble L'expo sur les quatre peintres arabes et en 85, les peintres du Maroc.
Oui, exactement.
Et vous expliquer peut-être l'esprit dans lequel tu faisais ces expos.
Alors, on continue, s'il vous plaît. Donc, une fois que j'ai présenté cette collection, donc, j'ai entamé une série d'expositions temporaires et des expos de groupes en général autour des thèmes. La première expo était axée sur l'idée qu'on ne peut pas comprendre la création artistique dans le monde arabe sans l'apport de la diaspora. Et donc j'ai essayé dans cette première exposition de présenter les artistes vivant chez eux et les artistes en exil. Et j'ai présenté donc Qassimi face à l'artiste Marwan qui vit à Londres, à Berlin, exilé depuis les années 50 à Berlin. On passe à la deuxième. Donc vous voyez, c'est des œuvres majestueuses, des grandes œuvres avec une grande liberté. Donc là, c'est un artiste très connu, bien intégré à Berlin, et donc qui travaillait beaucoup sur des portraits paysages et qui lui permettaient justement d'évoquer l'exil et d'évoquer l'identité tiraillée entre ses origines et là où il vit. Donc il y a une influence de l'expressionnisme allemand très très fort, d'ailleurs il fait partie de grands artistes reconnus à Berlin.
L'expo sur les 19 peintres du...
On continue pour cette exposition, la première exposition importante sur le...
Oui.
Non, ça,
ça bon, c'est
on
après.
Est passé okay, c'est à trois femmes peintres. Et je voulais, donc pour chaque exposition, il y avait un thème, et je voulais démontrer aussi que l'apport des artistes femmes à la modernité dans le monde arabe. On oublie souvent qu'il y avait des femmes. Et donc j'ai présenté trois femmes. Chaïbia, Baya, algérienne, et Fakhr Nissa, Baya, voilà, les deux, c'est bon. Et Fakhr Nissa Zed, une artiste turco-jordanienne, qui était dans les années 40 une figure parisienne adulée par les critiques d'art et qui, à la mort de son mari, elle s'est exilée chez son fils à Amman. Elle a été presque oubliée. Quand je suis allé la voir, elle avait déjà 90 ans, mais elle avait une tête extraordinaire, éveillée et tout. Et elle est revenue à Paris, ça lui a fait beaucoup de bien. Je lui ai présenté cette expo, la troisième... Tu es une grande artiste. C'était une révélation. Voilà. Donc, cet artiste-là, c'est une personnalité charismatique, comme toutes les deux autres femmes, d'ailleurs. Chaïbia, Baya, elle a été découverte par le galeriste Mag, qui l'a exposée à Paris en 1946, à l'âge de 16 ans. Elle a ravi ses gouaches ont ravi le regard d'André Breton qui lui a consacré une très belle préface.
Et ça, c'était en quelle année, les trois femmes?
Alors, les trois femmes, c'était en 1990.
En 90, d'accord. Est-ce que tu peux aussi revenir sur l'expo de la peinture contemporaine au Maroc et nous expliquer
alors, la peinture,
comment tu avais...
Oui, en 91, j'ai réuni cette exposition, en fait... a été prévu pour l'année du Maroc, la première année du Maroc, qui n'a pas eu lieu. Moi, j'ai maintenu l'exposition et qui réunissait les œuvres de Fouad Ben Lamine, Qassimi, Farid Belkahia et Charkawi.
Alors, ce qui m'intéressait aussi en regardant les expos que tu as organisées, on reviendra sur la question de la mise en relation des artistes locaux et des diasporas à la fin de cet entretien, quand on parlera de traversée. Mais c'était aussi le souhait que tu as eu de réarticuler les scènes du monde arabe avec des espaces un peu plus étrangers, mais pour lesquels tu voulais créer des parentés. et notamment par exemple aux rencontres africaines. Parce oui, qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'art contemporain africain. Alors, mais en 94 déjà, tu avais organisé cette expo rencontres africaines.
Et là, si vous permettez, parce que c'est vrai que parfois le discours importe sur les images, et les images sont très parlantes. Ouais. Et bon, ça, c'est toujours Farid Belkaïa, ouais. Dans le cadre de l'exposition des quatre pattes du Maroc.
Mais on retrouve Farid Belkaïa dans l'expo sur les rencontres africaines.
Exactement. On continue la projection, s'il vous plaît, des images. Ça vous donne une idée sur les expositions temporaires avant de passer à des expos thématiques. Ça, c'est les rétrospectives que j'ai organisées. Ça, c'est Nelahi. En 1995, ça c'est Qassemi. Toujours Melehi. J'ai axé un peu la projection sur les artistes marocains, mais il y a aussi beaucoup d'artistes. Ça c'est Adam Hanin dans une scénographie assez séduisante. Sculpteur égyptien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Adam Hanin, sculpteur égyptien. Salih Bedouaï, un artiste libanais, un des artistes les plus intéressants, artiste libanais. Ça, c'est Paul Geragosyan, un artiste arménien. Libanais. Donc, vous voyez, il y avait une diversité et surtout, cette diversité doit apparaître parce qu'on parle toujours du monde arabe. Or, le monde arabe n'est pas monolithique. C'est divers. Il y a des artistes d'origine arménienne, des artistes chrétiens, musulmans, autres, athées, etc. Donc, j'ai essayé justement de mettre en avant cette diversité. Il y avait aussi des expos, des photographes, parce que je considère que la photographie était un moyen d'expression très important et qui avait sa place dans la programmation des expos que j'organisais. Ça, elle s'appelle, c'est une artiste égyptienne, là on est dans Lara Baladi. Pour précision, il y avait une exposition sur les photographes en 2000, je pense, 2001. On continue. Ça, c'est les quatre peintres.
Oui.
Marocains. Ça, c'est l'expo consacrée à Rabaoui, en présence de Madame Chirac et sa maman. Elle aimait bien venir à l'Institut du monde arabe assister. Et donc, c'est la première rétrospective consacrée à Rabaoui en 1993. Suivi d'une rétrospective consacrée à Chakraoui en 1996. Ça, c'est une rétrospective de l'œuvre de Farid Belkaïa en 2005. Et ça, c'est, en revenant à la photographie, Jalal Gastelli, un artiste photographe très intéressant, à qui j'ai consacré aussi une exposition. Donc, ça vous donne un peu une idée. Voilà, la photographie, ça, c'est Susanna Hafouna, c'est une Égyptienne. Donc, une fois qu'on a abordé ces expositions collectives et individuelles, j'ai aussi mis en place des expositions thématiques qui permettaient justement aux artistes de différentes cultures de se rencontrer, dialoguer. Et c'est comme ça que j'avais imaginé une exposition sur
rencontres
africaines. Mais avant, j'avais organisé une exposition qui s'intitule « Croisement du signe ». Pour donner un peu corps à cette idée, j'avais le principe de réunir ces différents artistes autour d'une thématique. Or, la thématique de peinture, écriture, me paraissait très importante dans le dialogue entre l'Orient et l'Occident, sachant que l'Orient venait avec ses traditions de calligraphie et d'écriture, et la peinture occidentale, la peinture de chevalet, était aussi à emmener des artistes au XXe siècle à s'intéresser à des traditions orientales comme de Gotex que j'ai présenté à côté de Shaker Hassan et Ben Bella, Mahjoub Ben Bella à côté de Brian Gizin qui a élaboré des peintures écritures, mais aussi un artiste immensément connu maintenant, Elio Fan, que j'ai présenté à l'époque que peu de gens connaissaient. J'étais chez lui à Tokyo et je l'ai invité à cette exposition. Et donc, on va, croisement de signes, c'était en 1989.
Alors,
Après, on va passer à la deuxième exposition sur les rencontres africaines. C'était la première exposition aussi qui avait pour but de
tisser des liens entre le monde arabe et le monde africain.
Entre les deux rives de l'Afrique, comme j'appelle les deux rives de l'Afrique. Souvent, quand on présentait les artistes africains, on séparait toujours l'Afrique du sud.
Sud-saharienne
et l'Afrique du Nord. Or, je voulais quand même présenter l'Afrique dans sa globalité géographique. Et donc, j'ai confié cette exposition en accord avec Jean-Hébert Martin, que j'ai associé à cette exposition. On a confié le commissariat et le choix des artistes aux artistes eux-mêmes. C'est comme ça qu'on a confié le choix des artistes subsaharien à Farid Belkaïa et les artistes du Maghreb et de l'Égypte à Abdoulaye Konaté qui a sillonné cette région du monde. Et le fruit de ces deux, le regard de ces deux artistes sur l'Afrique nous ont permis de présenter cette exposition unique. Et à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'expositions sur les artistes africains et notamment cette idée de présenter l'Afrique dans sa diversité, sa richesse. Alors ici, la première image évoque justement cette rencontre des artistes autour du cygne. Et là, on a un artiste, Shaker Hassan Al-Saïd, un artiste irakien très connu qui a élaboré toute une œuvre de synthèse entre la calligraphie et la peinture matériste, car il a fait ses études à Paris, il a rencontré, il a été impressionné par ta pièce et par d'autres. Et au fond, on voit une œuvre de Gotex, magnifique. Donc c'est ce dialogue autour du signe. On continue, s'il vous plaît. Là, c'est les œuvres de Liofan à l'époque. Donc, vous voyez, c'est cette tradition de la gestualité japonaise qui est intégrée à l'espace pictural du tableau. Une peinture très, à la fois spirituelle, mais aussi très épurée, très maîtrisée, le geste maîtrisé. Là, c'est une œuvre de Brian Gizin qui a été influencée à la fois par la calligraphie arabe, mais aussi par la calligraphie asiatique. Là, on a une sorte d'accordéon immense qui faisait, je sais pas, 7 ou 8 mètres à côté d'une œuvre de Shaker Hassan. Donc là, on a un échantillon de ce dialogue autour du signe et de la calligraphie. Là, c'est la rencontre africaine. Et on a des artistes africains avec les artistes du Maghreb. Et au fond, on a une installation de Abdoulaye Konaté qui faisait à l'époque un travail sur les symboles, les signes, je dirais, des rituels au Mali et en Afrique en général. Là, une installation de Abdoulaye Konaté à l'époque, c'était
une rencontre africaine.
Rencontre africaine C'était en 1994, je m'excuse tellement.
Alors, est-ce qu'on peut, Brahim, passer à, parce que je parlais de ta volonté donc d'enrichir les liens entre ce monde arabe que tu as sillonné et que tu voulais donc mettre en regard avec les mondes africains, mais aussi avec des récits antérieurs issus du monde arabe et notamment la peinture orientaliste. Et là, peut-être tu peux évoquer deux expos, l'expo de Delacroix et puis Mathieu Selma.
Oui, deux expositions très importantes
qui ont reçu donc, des parallèlement, records de visiteurs.
Aux expositions consacrées à l'art contemporain et à l'art moderne, j'ai initié une série de grandes expositions annuelles, c'est-à-dire que chaque année, je présentais une grande exposition rentable, parce que sans ça, je n'aurais pas pu faire aller exposer des artistes à l'époque qui ne rapportaient rien à Lima et qui nécessitaient des voyages et des scénographies et des catalogues. Donc, j'étais en échange, j'étais obligé de programmer des grandes expos rentables qui drainaient un public énorme. Et donc, la première était le voyage de Delacroix au Maroc, qui était une exposition très importante, qui a drainé 350 000 visiteurs en 3 mois, et qui a été à la fois un succès, mais aussi une manière un peu de se positionner par rapport à l'orientalisme. Vous savez que l'orientalisme, depuis la problématique évoquée par Édouard Saïd, le regard de l'Occident sur le monde arabe et sa critique justement légitime de ce regard à la fois je dirais la représentation un peu négative et rétrograde souvent de l'arabe ou du musulman a provoqué une réaction chez les intellectuels et c'était un petit peu le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée postcoloniale. C'est grâce à la critique d'Edouard Saïd que cette relecture de l'histoire à travers un nouveau regard s'est effectuée. Et devant cette critique tout à fait légitime, moi j'estimais qu'on ne pouvait pas généraliser cette critique à tous les orientalistes. Parce que parmi ces orientalistes, il y avait des grands peintres qui ont porté un regard empathique envers le monde arabe, sa population, ses paysages. Et c'est la première exposition, je voulais justement marquer la différence entre un orientalisme, certes rétrograde et qui a apporté préjudice à la culture du monde arabe, et des artistes qui ont vraiment été fascinés par le monde arabe.
Qui ont voyagé, qui l'ont documenté.
Voilà. Et le voyage de Delacroix était idéal pour démontrer cet autre aspect de l'orientalisme. Et c'est comme ça qu'on a réuni un ensemble d'œuvres de ce grand artiste qui évoque son voyage au Maroc et l'impact de ce voyage sur son œuvre. On a emprunté une œuvre majestueuse au musée des Augustins de Toulouse. C'est la sortie du sultan Moulay Abdelrahman, qui faisait 3 mètres 50 sur 3 mètres et qui était conservé au musée depuis des années sans être dans un mauvais état. Quand elle est arrivée à l'Institut du Monde Arabe, elle a subi une sacrée restauration. Et donc, elle était la pièce principale de cette exposition. Et nous avons emprunté à d'autres musées internationaux, mais aussi à des musées français, de nombreuses toiles, mais aussi des dessins et des aquarelles. Une exposition qui a eu beaucoup de succès et d'ailleurs est complétée par des objets que Delacroix a ramenés du Maroc, qui ont été qui ont toujours été conservé dans son atelier à Paris. On a restitué un petit peu cette ambiance marocaine de Delacroix. Ici,
c'était
la grande la queue devant l'entrée du musée de l'Institut du monde arabe à cette époque-là. Ouais. Donc, je vous disais que c'est une exposition qui a attiré 350 000 visiteurs.
Ouais, c'était en 94-95.
Voilà.
Et est-ce que pour terminer, peut-être on fait une ellipse sur Matisse, parce que j'ai peur qu'on ait un peu...
Là, c'est une exposition, une des dernières expos sur Laurent Italie, qui s'appelle « De Delacroix à Renoir », qui était justement une manière, c'était à l'époque... c'est l'année de, vous savez, souvent les expos importantes étaient programmées à l'occasion des échanges entre un pays et la France. Et cette exposition que j'avais montée, qui s'intitule De Delacroix à Renoir, les peintres français en Algérie. C'était à l'occasion de l'année de l'Algérie en France. Donc il fallait présenter. Ça, c'est l'exposition Matisse. On va passer à Matisse.
Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le temps et on se met en 2008. Et en fait, j'insiste sur cette date et cette expo parce que c'est le moment où moi, j'ai l'impression que finalement, je récupère au moment de la création du magazine Diptyque. Ça correspond exactement à cette expo traversée. C'est une très belle expo qui avait été présentée à Lima et qui est venue au Maroc, à Rabat. Et en fait, on a visité cette expo au moment où on était en train de travailler sur le premier numéro du magazine Diptyque. Et j'ai la sensation que je te dois beaucoup, en fait. J'ai l'impression d'avoir récupéré une très forte charge du travail que tu as effectué pendant toutes ces années et qui consistait à d'abord à mettre en lien les artistes des scènes locales et les diasporas. Et l'expo traversée, c'est le premier sujet qu'on a traité dans le premier numéro de Diptyque. Et j'aimerais que tu parles de cette expo en particulier, que tu nous dises pourquoi c'était le début. Pour moi, c'est vraiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose, et notamment le début d'un nouveau rapport à l'art contemporain dans les scènes contemporaines du monde arabe, et notamment au Maroc.
Oui, c'est une exposition emblématique des changements à la fois sociétal et esthétique dans le monde arabe. Elle correspond au passage au XXIe siècle et l'émergence d'une génération d'artistes qui s'est affranchie des représentations classiques d'une conception de représentation classique et qui aborde la création dans sa... à travers des nouveaux médias, mais aussi à travers des nouvelles procédés de présentation. Et c'est une exposition qui réunissait une génération d'artistes émergents qui ont transcendé un petit peu les frontières. On arrive au XXe siècle avec la globalisation et avec une géographie artistique globale. Donc ces artistes se sont tout de suite intégrés à cette globalité, ils ont su dialoguer avec les artistes du monde. Et la particularité de ces artistes, c'est qu'à la fois, ils sont porteurs d'un regard sur leur société, sur leur environnement, mais aussi conscients de leur appartenance à un monde plus grand, avec la globalisation, avec les problèmes qui se posent à la planète, que ce soit au niveau écologique, au niveau de la mémoire, hein, au niveau du métissage artistique, toutes ces problématiques se transparaissaient, transparaient dans leurs œuvres. Et j'étais d'ailleurs à l'origine de leur présentation à Paris. Et j'ai assisté à cet intérêt du marché de l'art, à leurs œuvres, quand je les ai présentées au Grand Palais dans le cadre d'Art Paris, j'ai vu défiler des grandes galeries chercher à les contacter.
Ils l'ont fait d'ailleurs.
Bien sûr. Et dans des artistes comme que j'ai présenté, Gada Hamer, mais aussi Youssef Nabi, qui a intégré Obadiah, mais aussi Continua qui a récupéré Matasnas, le Cadératia, la galerie Trigano qui a récupéré le. Et d'autres, bref. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que ces artistes ne se connaissaient pas entre eux. C'était des artistes. L'un vivait, par exemple, Adel Abdin vivait à
Helsinki,
qui rencontre un Égyptien comme Mouataz Nasr, qui n'avait rien de lien avec eux, ou bien Kader Atia, qui rencontre et des artistes comme Faisal Samra ou comme Gada Hamer qui vivait à New York. Bref, tous ces artistes se sont retrouvés, ont créé des liens, des amitiés et ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelque part, j'ai assisté, j'étais un peu dans cette. L'émergence d'une nouvelle culture et d'une nouvelle approche artistique qui se met en place petit à petit, à la fois dans le monde arabe, mais aussi dans la diaspora, comme j'ai toujours été conscient que la diaspora jouait un rôle très très important dans le renouvellement de la culture dans le monde arabe.
Ouais, c'est une expo importante.
Désolé, on aurait pu parler.